Isabelle Chenu pour cette exposition à voir jusqu'au 30 juin. On est presque en retard, 6h43. Marion Cazanov, c'est à vous.
Merci Edouard Dupénoit. 6h43 donc à Paris, 5h43 en temps universel. Dans quelques minutes, le grand invité Afrique, qui sont en fait deux invités, les responsables catholiques et protestants de la RDC de passage à Paris. Ils saluent la rencontre entre les présidents congolais et rwandais à Doha et demandent la poursuite du dialogue. La RDC qui a suspendu ses exportations de cobalt pour 4 mois, on verra les conséquences sur le marché dans la chronique des matières premières. Mais d'abord, les sports. Avec Antoine Grenier, bonjour Antoine.
Bonjour Marion.
Le football, d'abord Madagascar continue à rêver. Les Barea, leaders de leur groupe d'éliminatoire de la Coupe du Monde.
Après une victoire éclatante 4-1 sur la Centrafrique, Madagascar provisoirement leader de son groupe. Après une cinquième journée que les Malgaches ont parfaitement lancée à Casablanca sous les yeux de Mathias Reynal.
Tout avait pourtant mal commencé pour les Malgaches. Une tribune pleine de supporters centrafricains qui donnent de la voix. Et un but marqué dès l'entame par le défenseur des fauves, Hugo Gambor. Mais rapidement, Madagascar assoit sa domination. Les Barea recollent logiquement au score 10 minutes plus tard, prennent l'avantage dans la foulée. Alfred, supporter malgache, est rassuré.
C'est un beau score, mais ce n'est pas encore suffisant. On espère 5-1, 6-1 comme ça, ce sera...
Au coup de sifflet final, c'est presque ça. 4-1 pour Madagascar. Fernando est extatique.
Ah, j'ai aimé ce match. C'est la première fois que je vois Madagascar jouer aussi bien comme ça. On joue comme le Barcelone.
Le sélectionneur, Corentin Martins, ne pouvait pas espérer mieux pour son premier match à la tête des Barea.
Les joueurs ont réalisé un gros match. Un but contre nous, 10 minutes de jeu. Ils n'ont pas paniqué, ils sont restés calmes. On a fait un gros match sur le plan mental. Dans les jours qui viennent, on va essayer de bien récupérer parce qu'on a laissé beaucoup d'énergie aujourd'hui. Et être prêt pour lundi, ça sera un autre match, c'est sûr.
Madagascar a rendez-vous avec un grand d'Afrique, le Ghana. Mathias Reynal, Casablanca, RFI.
Une cinquième journée qui aurait été synonyme de mauvaise opération pour le Cameroun après un voyage très compliqué jusqu'à Nelspruit en Afrique du Sud. Les Lions indomptables ont concédé le nul 0-0 face à l'Eswatini. Ils se retrouvent avec seulement 2 points d'avance sous la menace de la Libye et du Cap-Vert. La Tunisie, de son côté, se contente d'une petite victoire 1-0 sur le Libéria pour compter provisoirement 5 points d'avance en tête de sa poule.
À suite de cette cinquième journée d'éliminatoire de la Coupe du Monde aujourd'hui, 9 matchs au programme avec notamment le Gabon qui reçoit les Seychelles.
Match prévu à Franceville, les Panthères ont pour l'instant deuxième du groupe F avec 9 points face aux Seychellois. Puis contre le Kenya dimanche, les Gabonais visent un carton plein, prévient André Biogopoko qui retrouve la sélection après 2 ans d'absence.
C'est un plaisir de remettre les tuniques du pays. C'est une fierté déjà pour moi de défendre les couleurs de la nation. Revenir dans la tanière, c'est un plaisir. Il y a du talent au niveau du National Foot. Et voir des petits aussi arriver en équipe nationale en passant par le National Foot, c'est toujours un plaisir. Les deux matchs, mais on va d'abord se focaliser sur le match contre le Seychelles. Le but, c'est de prendre 3 points. Il n'y a pas d'autres résultats possibles à faire. Que le plus important pour nous, c'est de gagner le match.
Propos recueillis par Fritz Koum. Gabon-Seychelles, coup d'envoi 19h, temps universel. Une cinquième journée qui commence à 13h, temps universel, avec Mozambique-Ouganda, suivi de Malawi-Namibie, Sierra Leone-Guinée-Bissau, Zimbabwe-Bénin, Gambie-Kenya et Comores-Mali à 21h TU.
Et on termine avec l'Olympisme, avec ce jeudi l'élection du nouveau président du comité international.
7 candidats en lice pour convaincre les 106 membres de l'institution présents en Grèce pour élire le successeur de Thomas Barr. Parmi les candidats, la zimbabwéenne et ancienne championne olympique Kirsty Coventry.
Et on y revient dans le dossier du journal de 7h, temps universel, avec notre envoyé spécial en Grèce. Merci Antoine Grenier. Ils avaient accepté de rencontrer les rebelles du M23 dès le mois dernier à Goma. Aujourd'hui, les religieux catholiques et protestants de la RDC saluent le fait que le pouvoir de Kinshasa leur emboîte le pas. Et ils veulent aller plus loin. Ils lancent le projet d'un forum national des Congolais. Hier, à Paris, ils ont été reçus par le président Emmanuel Macron. Ce matin, 2 d'entre eux, Mgr Fulgence Muteba pour les catholiques de la Senko et le révérend André Bokundwa pour les protestants de l'église du Christ au Congo, répondent aux questions de Christophe Boisbouvier.
Monseigneur Fulgence Muteba, bonjour.
Bonjour.
Révérend André Bokundwa, bonjour.
Bonjour.
Maintenant que Félix Tshisekedi et Paul Kagame se parlent directement, est-ce que votre initiative de paix a encore un sens ?
Bien sûr. Notre initiative consiste justement à mettre les gens autour d'une même table pour qu'ils puissent parler. Nous saluons cette rencontre entre le président Félix Tshisekedi et le président Kagame. Ça montre que le chemin que nous avons proposé à notre population du Congo et au populations de l'Afrique des Grands Lacs. C'est un chemin qui commence à être emprunté par les uns et les autres. Les deux sont des acteurs majeurs. S'ils se parlent, c'est une très bonne chose. Et notre souhait, c'est qu'ils continuent de se parler.
Voulez-vous dire que vous avez un peu montré la voie, révérend André Bokundoa?
Oui. Notre travail, c'est aussi de montrer la voie aux gens pour qu'ils nous suivent. Et comme l'a dit Monseigneur, notre souhait, ce n'est pas que les deux présidents se parlent, c'est que nous, les Congolais, nous puissions nous parler pour des problèmes qui fâchent au Congo. Et ils sont nombreux.
Alors, l'une des nouveautés depuis quelques jours, c'est que le président Tshisekedi a donné son accord pour un dialogue direct avec les rebelles du M23 que vous aviez rencontrés il y a déjà quelques semaines, Monseigneur Mouteba. Comment vous réagissez?
Très positivement, parce que ça fait des semaines que nous demandons qu'il y ait ce dialogue, parce que nous ne croyons pas du tout à une solution militaire à notre problème. Vous savez, la violence engendre la violence, comme on dit. Et pour nous, il faut que les Congolais puissent se retrouver autour d'une table, qu'ils puissent retrouver le consensus national, la cohésion nationale. Et ça, ça demande que chacun puisse se dépasser. C'est pourquoi nous saluons la décision du président Félix-Antoine Tshisekedi. Et il s'est dépassé, même si autour de lui, il y a des gens qui ne sont pas d'accord. Mais là, il a pris ses responsabilités et nous l'encourageons à aller plus loin. Parce que le dialogue ne doit pas seulement se limiter entre une délégation du gouvernement et ceux qui ont pris les armes, mais il faut que ça soit, comme le révérend l'a dit tout à l'heure, un dialogue entre les Congolais qui soit le plus inclusif possible, le plus transparent et qu'on puisse aborder tous les problèmes qui fâchent de telle manière que, fort de cette cohésion au plan interne, que nous puissions aller au niveau de la sous-région pour poser les problèmes qui nous divisent avec les pays de la sous-région. De cette manière, nous pensons qu'on peut poser les bases d'une paix durable.
Alors, parmi les problèmes qui fâchent, il y a la question du maintien au pouvoir du président Tshisekedi, dont la FCM23 demande le départ. Révérend André Bokundoa, comment Félix Tshisekedi pourrait négocier avec des gens qui demandent son départ?
Écoutez, si nous connaissons les problèmes au Congo, c'est surtout à cause de l'exclusion. Nous n'y croyons pas que pour qu'il y ait la paix au Congo, il faut exclure certains et garder les autres. Je crois que nos bien-aimés vont revenir dans le bon sens de voir comment nous pouvons aller jusqu'à la fin de son mandat et organiser des bonnes élections pour l'avenir de notre pays. Mais demander le départ de quelqu'un qui a un mandat, nous croyons que ce n'est pas une bonne chose.
Alors maintenant que Félix Tshisekedi accepte que son gouvernement rencontre les rebelles du M23, est-ce que votre pacte social pour la paix a encore une utilité, Monseigneur Mouteba?
Bien sûr, il a davantage d'utilité parce que notre pacte consiste à organiser un dialogue entre les Congolais en vue de consolider la cohésion nationale.
Et ce forum, vous pensez qu'il pourrait avoir lieu à quelle date?
Bon, nous sommes encore dans les pourparlers avec les autres et c'est lorsque nous aurons terminé qu'on va voir comment fixer la date pour les forums. Mais aussi, il faut tenir compte du gouvernement parce que jusque-là, les vues ne sont pas encore au point avec ceux qui sont au pouvoir. Il y a encore des doutes quant à notre initiative.
Donc ce forum qui consoliderait les négociations directes à venir entre le gouvernement et le M23, c'est ça?
Oui, pas seulement M23, avec tous les Congolais, même ceux qui ne sont pas dans les M23, parce qu'il y en a qui sont à l'extérieur du pays, qui ne sont pas au Congo. Il y en a qui sont au Congo, mais qui ne disent rien publiquement. Mais nous savons qu'il y a des frustrations un peu partout.
Monseigneur Mouteba, il y a quelques jours, le prix Nobel de la paix, le docteur Mukwege, a lancé un appel pour une grande conférence internationale pour votre pays. Qu'est-ce que vous en pensez?
Je soutiens cette initiative. Et pour nous, justement, ce sera le deuxième pas. Après avoir consolidé la cohésion nationale, à travers un forum que nous appelons le Forum des Congolais, il faut maintenant que nous puissions aller au niveau de la sous-région. Au niveau de la sous-région, on devra organiser une grande conférence internationale sur la paix en Afrique des Grands Lacs. Comme ça, les recommandations qui viendront du forum national vont servir pour que nous puissions finalement vider toutes les questions qui nous opposent aux pays qui nous font la guerre.
Révérend André Bokundoa, vous sortez de l'Élysée. Qu'est-ce que vous attendez du président Macron dans cette double initiative que vous proposez?
Nous attendons son soutien. Parce que la France n'est pas n'importe quel pays et nous attendons qu'il puisse soutenir notre initiative, que cette initiative soit reconnue au niveau national et mondial. Il a des entrées et c'est sans cela que nous croyons qu'il peut intervenir pour que notre initiative soit cette initiative qui amène la paix au Congo.
Monseigneur Fulgence Mouteba, révérend André Bokundoa, merci.
Merci beaucoup.
Merci beaucoup.
Les grands invités Afrique avec Christophe Boisbouvier. Et on parlera de la situation dans l'Est de la RDC dans le prochain journal à 5h, temps universel, 6h, temps universel plutôt. On reviendra sur ces combats entre l'armée congolaise et le M23 soutenu par le Rwanda, combats dans le sud Kivu qui ont atteint la ville de Walikale. Les humanitaires sur place déplorent des dégâts matériels sur les infrastructures médicales. La chronique des matières premières ce matin sur le cobalt, dont les cours remontent de manière spectaculaire. Cela fait suite à l'annonce de la RDC qui suspend ses exportations pour 4 mois. Julien Clémenceau, la RDC, premier producteur mondial, semble en passe de gagner son pari sur un marché qui était devenu structurellement excédentaire.
Kinshasa a effectivement enrayé de manière radicale la chute du prix du cobalt. En moins de 3 ans, le minerai avait perdu les 3/4 de sa valeur. Mais depuis l'entrée en vigueur de la décision congolaise, fin février, son cours a déjà regagné plus de 60%. Ce n'est pas étonnant, la RDC fournit les 3/4 du cobalt vendu dans le monde. Et les stocks disponibles, notamment en Chine et en Malaisie, seront épuisés ou presque quand l'interdiction prendra fin. En revanche, pour les industriels, c'est la douche froide. Les fabricants de batteries ont commencé à répercuter la hausse sur leurs prix.
Et la demande est en augmentation. Alors pourquoi le prix du cobalt a décroché ?
Effectivement, les industriels consomment de plus en plus de cobalt. En premier pour les batteries des véhicules électriques et des téléphones. Entre 2023 et 2024, ces usages ont augmenté d'environ 10% et la tendance devrait se poursuivre selon les analystes. Mais la production a dépassé la demande ces dernières années, notamment parce que le cobalt est extrait comme sous-produit du cuivre. Donc quand le chinois Simoc, leader du secteur, augmente sa production de cuivre en RDC, dont le cours est haut, il extrait mécaniquement plus de cobalt, poussant son prix un peu plus vers le bas.
Et donc la victoire de Kinshasa pourrait être très temporaire, Julien ?
C'est l'avis d'un expert interrogé qui parle même d'effondrement prévisible du prix dès la reprise des exportations. Si on en croit de récentes déclarations, Kinshasa pourrait essayer de limiter la chute en mettant en place des quotas et en s'entendant sur une politique commune avec l'Indonésie, le deuxième producteur mondial de cobalt. Ce que souligne notre expert également, c'est que la RDC a pris des risques en prononçant cette interdiction de manière totalement inattendue. D'abord, celui d'effrayer de futurs investisseurs, et puis celui de pousser les fabricants de batteries vers des solutions sans cobalt. Les batteries lithium-fer-phosphate sont moins performantes, mais surtout moins chères à produire. Un argument de poids pour les constructeurs de véhicules électriques.
La chronique des matières premières, Julien Clémenceau. Demain, 21 mars, on célèbre la première journée mondiale des glaciers. Cette nouvelle date pour alerter sur la fonte des neiges, la disparition des glaciers à cause du réchauffement climatique. La conséquence, c'est un manque d'eau douce qui se fait ressentir déjà en Afrique. Le mont Kenya, par exemple, a perdu 90% de sa glace en un siècle. Cela entraîne de vives tensions dans la vallée auprès des agriculteurs et des villageois. Voici un extrait du grand reportage d'Alban Tiroir sur le sujet.
À mes débuts, la montagne ne ressemblait pas à ça, à ce que l'on voit aujourd'hui. Elle était recouverte de neige et de glaciers. Tout ce pan face à nous était recouvert de neige, partout. Il faisait très froid, la couche de neige s'élevait jusqu'à 90 cm. Autour des sommets, tout était recouvert de glaciers.
Dans une étude publiée en 2024, plusieurs chercheurs estiment que le mont Kenya ne compte plus que 4% de la surface de glaciers observée en 1900. À l'époque, en 1893, le géologue britannique John Walter Gregory y avait mené la première expédition scientifique sans atteindre son sommet. Aujourd'hui, le terrain est moins hostile et les moyens d'ascension se sont développés. Joshua.
La montagne est devenue beaucoup plus accueillante comparée à ce qu'elle était il y a 40 ans. Je le racontais justement à mon groupe de randonneurs. À l'époque, c'était très dur d'accéder au sommet. Nous avions besoin d'utiliser des piolets pour avancer dans la neige. Aujourd'hui, dans mon groupe, personne n'en a, car c'est plus facile. Il y a moins de glaciers, moins de neige. Les gens viennent de Nairobi et font l'ascension beaucoup plus facilement, en 3-4 jours. À l'époque, c'était plutôt 6-7 jours, même 8 parfois.
Joseph tient à montrer la rivière, illustration flagrante de ces changements selon lui.
Cette rivière provient du glacier. Lors des saisons des pluies, elle était très puissante, ce qui est le moins le cas aujourd'hui. Car la saison des pluies est moins abondante, la rivière ne se remplit que pour quelques mois contre les 2/3 de l'année auparavant. Et même en saison sèche, comme en ce moment, cette rivière faisait le double du niveau que nous voyons maintenant. Nous ne pouvions pas voir ces cailloux au fond, comme c'est le cas à l'heure actuelle par exemple. Tous ces petits ruisseaux, en fait, découlent en partie du glacier et alimentent de plus grandes rivières au pied de la montagne, dont dépendent les villes alentours et la région du Mont Kenya. Il faut comprendre que quand il n'y a pas de saison des pluies, ces rivières se reposent sur l'eau qui coule des glaciers.
En 2020,
l'Organisation météorologique mondiale estimait que si les taux de retrait actuels des glaciers continuent, le Mont Kenya pourrait ne plus avoir de glace d'ici à 2030.
Il y a un énorme décalage entre la vitesse à laquelle fondent les glaciers et les mesures que nous prenons pour les préserver. Nous plantons 20 arbres, nous en coupons 30. Nous plantons des arbres très jeunes, nous coupons les plus anciens. Ça n'a pas de sens.
Sur le mont Kenya, le glacier disparaît, l'agriculture est menacée. Un grand reportage d'Alban Tiroir à écouter tout à l'heure à 11h10, temps universel. À suivre sur RFI, un nouveau journal d'actualité internationale. On reviendra notamment sur ces combats en RDC à Walikale dans le Nord Kivu. A tout de suite sur RFI.
Bonjour, c'est Juan Gomez. En Côte d'Ivoire, faut-il réintégrer Laurent Gbagbo, Charles Blé Goudé et Guillaume Soro sur la liste électorale? Pour l'instant, ces trois personnalités ne peuvent pas se présenter à la présidentielle du mois d'octobre. Leur absence peut-elle provoquer des tensions? On en parle.
Appel sur l'actualité
33 9 693 693 70.
Retrouvez Appel sur l'actualité avec Banque Atlantique à partir de 8h10 TU.
À tout à l'heure sur RFI.
8 milliards de voisins.
Emmanuel Bastide attend vos témoignages sur le thème d'aujourd'hui.
Entreprendre en Afrique avec les conseils du coach Didier Akwété pour les jeunes diplômés. Et puis en deuxième partie d'émission, quel partage de la valeur dans les PME africaines avec les employés.
Contactez-nous sur notre numéro WhatsApp 337 64 45 51 41.
8 milliards de voisins.
Du lundi au vendredi à 10h10 TU sur RFI.